Il y a une double dimension de Saint-Louis qui traverse les siècles, c'est la justice et la paix. Ça, c'est une grande donnée de Saint-Louis, qui est un saint laïque au Moyen-Âge, ce qui est quand même relativement exceptionnel. La justice, parce que Saint-Louis a véritablement été un roi très attaché à la justice, il a voulu la justice dans son royaume. C'est quand même lui qui, même pour préparer la première croisade de 1248, a institué les enquêteurs royaux, qui devait démasquer les abus ou les injustices, justement, commis par ce que nous appellerions aujourd'hui les fonctionnaires de l'État. Et au retour de la première croisade, qui d'ailleurs a été un échec militaire, Saint-Louis a donné ses grandes ordonnances, comme on les appelle, qui ont voulu véritablement mettre encore plus l'accent sur le redressement judiciaire dans le royaume. Et Saint-Louis lui-même s'est fait champion de cette justice. C'est quand même lui qui a défendu la présomption d'innocence, par exemple, le droit des femmes dans les questions d'héritage, et surtout qui a voulu la même justice pour tous, les puissants et les misérables. Donc Louis est vraiment un roi qui est très attaché à la justice. C'est l'image que le XIXe siècle a popularisée, Duchesne de Vincennes. Et sinon, lié à la justice, il y a bien sûr la paix. Alors la paix que Saint-Louis a mise entre les sujets eux-mêmes dans son royaume, mais aussi avec les étrangers, entre les Bourguignons, les Lorrains, la France et l'Angleterre, l'Aragon et la France. Saint-Louis a été un chef spirituel et moral pour toute la chrétienté.
Est-ce qu'à l'occasion de ce 800e anniversaire, vous sentez une dévotion des Parisiens pour Saint-Louis, des gens qui le redécouvrent? Est-ce que vous sentez, par exemple, chez vos paroissiens, un intérêt renouvelé pour cette figure de Saint-Louis?
Alors, chez les paroissiens, nous l'espérons, Saint-Louis reste quand même un saint populaire dans l'esprit des Français. C'est, comme je le disais, l'image du XIXe siècle et de Saint-Louis sur son chêne, rendu célèbre par les manuels d'histoire du XIXe siècle. Donc, Saint-Louis reste le roi bon et juste. Mais on a toujours besoin de rappeler les grandes figures qui ont construit notre histoire et notre patrimoine au moment où certains peuvent craindre que, justement, on les laisse un peu disparaître.
Est-ce que les rois de France qui ont succédé à Saint-Louis se sont appuyés sur son modèle de gouvernement ou est-ce qu'au contraire, beaucoup s'en sont détachés par la suite?
Ça dépendait des rois. Disons que beaucoup ont souhaité le rejoindre. Son fils Philippe III, notamment, tant qu'il a, pour ainsi dire, régné selon les mérites de son père, c'est la formule employée par les chroniqueurs de Saint-Louis, la paix avec l'Angleterre a pu durer. Mais il est certain que le traité de Paris entre la France et l'Angleterre réclamait tout un doigté et une diplomatie qui était celle de Saint-Louis et que les successeurs, l'histoire l'a bien montré d'ailleurs, n'ont pas pratiqué de la même manière et on a assez vite eu la guerre avec les Anglais. Les rois qui ont succédé à Saint-Louis ont, d'une manière ou d'une autre, essayé d'en reprendre le meilleur, mais nous n'avons pas eu en France d'autres rois canonisés que Saint-Louis après lui.
Et pour des hommes politiques contemporains, en quoi peut-il être un modèle?
Eh bien, c'est ce que je disais, cette droiture des agents de l'État, cette rectitude qui a véritablement été voulue par Saint-Louis et qui a toute son actualité quand il s'agit d'être un grand serviteur de l'État, et bien de se conformer à la justice que l'on demande à tous. Ça, c'est véritablement quelque chose de Saint-Louis qui reste et qui est majeur, avec le coefficient qui va avec, c'est-à-dire la volonté de paix entre les différents groupes qui vivent sur le territoire, bien sûr, de la même nation. Alors, il y a chez Saint-Louis, qui va avec toute cette exigence de justice, une proximité des pauvres, des malheureux, des malades, des ordres mendiants qui sont récents à l'époque où Louis vit, au XIIIe siècle, qui porte à penser que l'exigence de justice, en tout cas, c'est une leçon qu'on peut retenir de la vie exemplaire de Saint-Louis, semble aller de pair avec un service des plus petits, des plus pauvres et des plus malheureux. Manifestement, dans la vie de Saint-Louis, les deux vont ensemble et c'est peut-être un message qu'il nous donne, y compris peut-être pour les gouvernants non seulement de France mais d'autres pays, que l'exigence et le respect de la justice et l'avènement de la paix chez les gouvernants eux-mêmes doit vraiment aller avec un souci, je dirais, des marginaux, des exclus, comme le faisait Saint-Louis.
Est-ce que Saint-Louis est connu en dehors des frontières de la France?
Ah ben bien sûr, peut-être même mieux qu'en France même. Saint-Louis a des villes à son nom, n'oubliez pas, aux États-Unis bien sûr. En Europe et hors de l'Europe également, on ne peut pas faire le tour de tous les pays qui le reconnaissent et qui reconnaissent sa valeur. Mais à partir du moment où au Moyen-Âge, il est déjà, comme je le disais, ce chef moral de la chrétienté qui sert d'arbitre à toute la chrétienté que l'on vient trouver lorsque le roi d'Angleterre a des difficultés avec ses propres barons et que c'est au roi de France qu'on demande d'arbitrer les conflits, il a marqué non seulement son temps, mais au-delà des pays d'Europe, et en dehors de l'Europe aussi. C'est l'époque où l'Empire mongol en Asie représente dans la conscience européenne une menace immense ou peut-être une chance, on ne sait pas. Louis envoie une ambassade, il est en lien avec eux. Et bien entendu, c'est l'époque des croisades où les Européens se manifestent en Terre Sainte. Donc autant de raisons qui font que Louis est bien entendu connu au-delà des seules frontières de la France.